Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Ça fait quelques semaines, Germain, qu'on se promène dans des véhicules assez luxueux. Moi, je vais vous parler de la Porsche Taycan Cross Turismo que j'ai roulé cette semaine. Et puis, on
va revenir... Un autre véhicule avec l'appellation Cross. Hein?
Oui, c'est ça.
J'aime bien le souligner à chaque fois que c'est le cas.
C'est ça. Puis, on va revenir à des véhicules un peu plus normaux. La semaine prochaine, on vous parlera notamment du Ford Escape hybride et hybride rechargeable. Mais toi, de ton côté, cette semaine, t'as essayé le Toyota Highlander Cross.
Non, juste le Highlander régulier.
C'est vrai, parce qu'il y a la Yaris Cross, il y a le Corolla Cross. Alors...
Oui. Non, le Highlander, lui, n'a pas droit à cette nomenclature-là.
C'est déjà un Cross, oui, donc pas besoin de le dire.
Oui. Okay. Mais c'est un excellent achat, cela dit, même si, si le nom pourrait laisser croire d'autres choses. Bref, donc le Highlander XSE avec le moteur V6, qui est une formule intéressante, mais on l'avait...
Tu as roulé une version XSE avec un look un peu sport, là?
Oui, bon, c'est, OK, si tu veux qu'on aille là, on va aller là. Un look un peu sport, oui, parce que on a des jantes noires et argentées, une peinture bleu marine qui était très belle, cela dit. Donc oui, on a un Highlander avec une apparence différente.
Mais toute la faciès, les phares, ouais, la calandre, les feux, c'est tout différent. Là.
Oui, mais il n'y a rien de sport là-dedans. C'est vraiment que de l'apparence.
C'est de l'esthétique,
oui. Oui, et moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'a... qui est venu me chercher plus qu'autre chose, mais à plusieurs reprises pendant...
Dis l'amateur de Chrysler Newport 73.
12.
Pardon.
Merci. 12. Non, mais plusieurs fois pendant la semaine, on m'a fait remarquer qu'il était très beau pour un Highlander. Donc, visiblement, ça semble plaire à des gens.
Ouais.
Quand on les avait mis en confrontation, les VUS intermédiaires à trois rangées pour le guide de l'auto d'il y a 2 ans, il y a une chose à laquelle... Il y a une conclusion à laquelle on était arrivé. Et c'est toujours aussi vrai, pour une utilisation de la troisième rangée, malheureusement, c'est pas le Highlander qui se démarque à ce chapitre-là. On se sent à l'étroit, l'accès est difficile, c'est vraiment pas la troisième banquette la plus confortable, il reste plus beaucoup de place pour dans le coffre après ça.
Et moi, je continue de trouver que ce véhicule-là, qui a beaucoup de qualité,
ouais,
reste inefficace lorsque trop lourdement chargé. C'est-à-dire la suspension, ouais, et les freins ne font pas le travail pour un véhicule accueillir 7 passagers avec une petite entroulotte ou quelque chose
à
main.
Même à l'aise, on le sent mou,
oui.
De l'arrière. On le sent, oui, très, très mou.
Absolument.
Et j'ai rencontré mon parrain cette semaine qui...
On le salue.
Il nous écoute probablement pas, mais on le salue quand même. Et me disait être très, très intéressé par le Highlander, donc comme tout était en tout, ça s'y prêtait bien. Et c'est ça, je lui expliquais que ben, la troisième rangée, c'est pas idéal. Et il m'a dit, ben moi, je m'en fous, il n'y a personne qui va prendre place à la troisième rangée. Il dit, je veux les 2 sièges capitaine à l'avant, les 2 sièges capitaine à la deuxième rangée, et après ça, un grand volume de chargement à l'arrière. Il dit, je veux rien savoir d'avoir un moteur à 4 cylindres. Donc le V6 de l'Highlander, ça convient parfaitement. Et effectivement, si on n'utilise pas la troisième rangée, ben ça peut être tout à fait convenable. Bon, pourquoi acheter un véhicule à 3 rangées si on n'utilise pas la troisième rangée? Bon, on peut se poser cette question-là. Mais effectivement, c'est une application à laquelle je n'avais pas nécessairement...
Mais il aurait pu être intéressé à un produit comme la Venza,
ben
si
voilà,
elle avait eu un V6.
Exactement. Mais là, je lui ai mentionné que la Venza, c'était un véhicule qui était hybride. Et là, je ne sais pas si c'est par conscience environnementale ou conscience d'économie de carburant, mais je pense qu'il regardera attentivement le Venza avant d'acheter son prochain véhicule.
Venza qu'on a de la misère à identifier comme un le ou un la aussi.
Est-ce qu'on
dit la Venza ou le Venza?
La difficulté à identifier parce qu'on n'en voit pas beaucoup,
oui,
hein, non plus sur les routes.
Les concessionnaires en ont pas.
Les concessionnaires en ont pas, c'est dommage parce que c'est un produit qui est intéressant, qui se vendrait beaucoup plus, mais bon, on n'en a pas. Oui, comme tu le disais de ton côté, Taycan Cross Turismo 4.
Quel look! Quel
c'est beau
look! C'est une voiture magnifique. Moi, j'adore cette configuration-là. Et quand je suis arrivé à côté de la voiture, elle était peinte en bleu et on avait le groupe d'options. Je veux pas dire qu'on l'appelle le hors-route, là, mais je me souviens pas du
le
terme
Pontiac
exact.
Le Pontiac Vibe Edition. Là.
Bon, alors, une espèce de d'ensemble de bas de caisse et de moulure de tour d'aile là, qui faisait que le véhicule avait un look un petit peu Subaru Outback. Là.
Mm-hmm. Volvo Cross Country, ce genre-là. Là.
Je trouvais que c'était totalement réussi. Bon, évidemment, tu prends place à bord, puis la position de conduite, elle est parfaite. Planche de bord ultra moderne. Les trois écrans, évidemment, avec l'écran pour le passager, il y avait des options. On parle d'un auto de 150 000 $ avec les options toit vitré. Mais
C'est pas la bombe de Taycan qu'on a en tête, là.
Écoute, c'est intéressant que tu dises ça, parce que il y a quatre versions de la Taycan dans la version Cross Turismo. La version 4, la version 4S, la Turbo et la Turbo S. Bon, avec la Turbo S, tu vas chercher avec l'Overboost, ce qu'on appelle l'Overboost dans le départ canon, 750 chevaux. C'est une vraie fusée. 2,6 secondes, 0-100, tout ce que tu voudras. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais dans le cas qui me concernait, 375 chevaux, 462 si ma mémoire est bonne avec ce qu'on appelle l'Overboost en départ canon. Donc, puissance qui est considérable, mais il ne faut pas oublier un truc. C'est une voiture qui pèse 2200 quelques kilos. C'est très, très lourd. Là.
Mais le centre de gravité est bon. On est assis sur
oui,
sur
mais il y en a pas moins que tu as une masse à déplacer pour 375 chevaux, ce qui fait que le 0-100 km/h se fait en 5,1 secondes. Tu n'as vraiment pas les sensations que tu obtiens avec une version turbo ou même avec une 4S. Et je t'avoue que j'aurais pris pas mal plus de puissance que ça. Tu vas me dire que 5 secondes, 0-100, c'est très bon, oui.
Mais chez Porsche,
pour une voiture...
Puis une voiture 150 000 $.
Puis une voiture électrique, d'emblée, ça accélère. Tu sais, je veux dire, une Spark électrique, ça faisait ça en bas de 7 secondes. Alors, tu sais, je me dis... Une Porsche Taycan de 150 000 $ même dans une version de base, tu t'attends à des performances qui sont plus relevées que ça. Et ça, je suis resté sur mon appétit et je vais te dire, c'est le moment spécifique où j'ai réalisé à quel point la puissance n'était pas si impressionnante, c'est que j'ai déposé la Porsche Taycan et j'ai pris le volant d'un Mustang Mach-E Premium. Pas une version GT, là, rien de compliqué. Et la Mustang était plus rapide. Alors là, j'ai fait...
Pour la moitié du prix?
J'ai fait, là c'est quand même quelque chose. Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il y aura beaucoup d'acheteurs de Cross Turismo en version de base, bien que dans les faits, t'as toute la puissance dont t'as besoin.
Et t'as tout l'équipement
Mais rendu là, tu sais, si t'as 150 000, t'as 175, tu sais, puis est-ce que tu veux avoir plus de puissance? En fait, c'est une question de goût. Puis pour l'autonomie, c'est correct, mais c'est rien d'extraordinaire.
On joue pas à la guerre du tout.
C'est 350. Mm-hmm. C'est 350 que ça fait. Moi, je l'ai rechargé à presque trois reprises, deux fois et demi, si tu veux. Puis c'est vraiment ça. On annonce 346, on fait autour de ça. Et puis si tu roules à vitesse élevée sur l'autoroute, tu vas consommer plus. Si tu fais un peu de circulation urbaine, tu consommes moins en énergie. Mais on est à du 26-27 kWh de consommation. Là. Donc c'est quand même gros. Là. Et un truc que j'ai trouvé peut-être un petit peu décevant, il n'y a pas de régénération. Tu ne peux pas conduire cette voiture-là à une seule pédale comme d'autres véhicules électriques. Il y a un mode, oui, où tu vas régénérer un peu plus, mais c'est loin d'être l'équivalent.
Tu
ne
pourras pas arriver à l'arrêt complet. Là.
Non, absolument pas. Alors ça, c'est peut-être un truc qui, moi, du moins, je me suis habitué, moi, personnellement, à conduire des véhicules électriques de cette façon-là et Porsche ne nous le permet pas. Mais en demeure pas moins que côté conduite, tenue de route, écoute, les quatre roues directionnelles, le vecteur de couple, c'est exceptionnel. Là. Et la qualité de fabrication, pour vraiment te dire que c'est magnifique. Fait que c'est une pièce
une belle
rare.
Vitrine technologique aussi.
Absolument, mais côté puissance et côté autonomie, je suis resté un petit peu sur mon appétit.